Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Radio.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Alors Félix, on a localisé le corps du pompier finalement?
Ah oui, c'est une affaire assez triste. Hein? Ça, je vais te raconter un peu comment cette histoire-là a commencé, mais je vais te raconter des détails plus personnels à propos de cette même histoire-là. D'abord, vous dire que hier, il y a eu une intervention d'urgence qui a été déclenchée quand une embarcation était en difficulté près des rapides de la Chine, donc vis-à-vis, si tu veux, l'arrondissement du même nom, là, sur l'île de Montréal. C'est un endroit où le courant est fort et mixte. Alors, c'est très difficile de s'en extirper lorsqu'on est pris là avec une embarcation. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Cet appel d'urgence-là fait en sorte que les pompiers de la caserne de La Salle, là, qui répondent normalement à champ d'appel sur le fleuve Saint-Laurent, ont pris le bateau, ont pris leur scaphandre de protection et puis se sont aventurés sur le fleuve pour aller secourir les gens qui étaient pris. Sauf que l'embarcation des pompiers a chaviré. Alors, on a été en mesure de repêcher le corps de deux pompiers dans un premier temps et puis de les rescaper. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que les collègues de ce pompier-là, quand ils étaient rendus sur le bateau, ils ont bien vu qu'il manquait l'un des leurs. Et il s'est déclenché hier soir, là, peu après 20 heures, là, une énorme opération de sauvetage. Moi, hier soir, là, j'écoutais ça sur les fameux scanners de police, là, donc les balayeurs d'ombre, pour emprunter, pour dire le bon mot. Et à chaque demi-heure qui passait, le répartiteur à la centrale d'urgence, on l'entendait dire sur les radios, l'opération dure depuis maintenant 2 heures. Après ça, l'opération dure depuis maintenant 2h30. Et on sait à ce moment-là que avec les combinaisons de protection que possèdent des pompiers à ce temps-ci de l'année, parce que ce n'est pas une combinaison d'hiver qu'ils vêtissent, là, que les risques d'hypothermie sont énormes. D'ailleurs, quand les premiers pompiers ont été repêchés quelques minutes après l'incident, ils étaient déjà en état d'hypothermie.
OK, celui qui est décédé avait une veste de flottaison?
Oui, mais je vais t'expliquer comment il est décédé. Il est décédé parce qu'il a été pris sous le bateau. Alors, il a été, quand le bateau a chaviré, pour une raison ou pour une autre, qu'on ne sait pas encore, là, il s'est pris sous le bateau.
Ah ouais.
Et ça a pris toute la nuit avant qu'on puisse le localiser. Ce sont des plongeurs qui l'ont localisé, qui étaient à sa recherche avec une caméra sous-marine. Moi, je vais te dire, Richard, les pompiers de la caserne de La Salle en question, j'en connais plusieurs, j'en connais très bien. Il y en a certains que je connais très bien dans ceux-là. J'ai des amis très chers et très proches, d'ailleurs, qui travaillent à cette caserne-là. Et je veux juste souligner que c'est pas beau de faire une idée là, de la difficulté puis du danger qui est en cause quand tu décides de choisir une profession dans le milieu de l'urgence. T'as beau te faire une idée, mais nous, là, sommes des civils à l'extérieur de tout ça, là, ce qu'on ne comprendra jamais, c'est que ces gens-là risquent vraiment leur vie pour en sauver d'autres et qu'un petit événement peut faire en sorte que c'est la leur qui est prise. Évidemment qu'il y a des calculs pour que tout se passe d'habitude sans anicroche, mais on n'est pas protégé d'un accident comme celui-là. Puis les pompiers qui travaillent dans ces conditions-là, c'est leur vie qui met en danger, autant sur le fleuve Saint-Laurent que dans un brasier. Dans un brasier, là, quand les flammes sont vives, Richard, là, quand on entre dans ça, là, on ne voit pas la personne qui est à côté de nous, on ne voit pas la personne qui est avant nous. On avance avec notre main, on touche les cadres de porte pour essayer de se faire un chemin dans un endroit où tout le monde veut sortir. C'est vraiment une profession qui prend beaucoup de bravoure. Puis moi, tu sais, je pense aux familles de ces gens-là aussi, aux familles du défunt, aux familles de ceux qui restent aussi. Parce que moi, hier soir, quand j'entendais le déploiement policier, mais pas juste policier, parce que tous les gens du milieu de l'urgence, hier soir, on l'entendait sur les balayeurs d'ondes, ont décidé de mettre l'épaule à la roue. La garde côtière, un hélicoptère, un griffon qui est décollé, des forces aussi, armées pour essayer de localiser le pompier. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec, le SPVM, les agents de sécurité du casino qui patrouillaient les berges des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame pour voir si le pompier s'était pas ramassé par le cours près du courant, là, et puis il n'avait pas réussi à sortir des eaux. Ça monopolise tout le monde, mais moi, je me disais, écoute, si ça avait été mon chum qui avait été là cette soirée-là hier, c'est lui qui aurait été sur le bateau. Mmh. C'est sûr.
Et comme tu dis, l'hypothermie, là, tu sais, il fait froid ces temps-ci le soir, là, il faisait 11 degrés hier soir. Ça prend pas beaucoup de temps pour que tu sois en situation d'hypothermie.
Non, ça se passe très, très vite. Et le secteur des rapides de la Chine est aussi un endroit qui est dangereux pour les pompiers. C'est pas la première fois que des pompiers se mettent à risque en tentant de secourir des civils sur les rapides de la Chine. Faudra y penser. Mais je le répète, pensons aussi aux collègues du défunt. Pensons au défunt. Pensons à sa famille. Pensons à tous ces gens-là puis même ceux qui restent, là, puis qui ont exemple, les conjoints puis les conjointes, là, de pompiers, là. Ben, eux, là, quand leurs proches partent travailler le matin, là, à un moment donné, tu t'habitues, hein, au danger. Mais à un moment donné, aussi, tu sais que celui que t'aimes, là, n'est pas à l'abri de ça. Alors, je trouve ça très, très.
Oui, puis c'est vraiment comme on appelle en anglais une bad luck, là, qu'il se soit retrouvé sous le bateau, là. Tu sais, il aurait pu se sauver. Écoute, tu veux nous parler de cet ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui a été retrouvé mort?
Très triste aussi. Joueur de hockey de la LNH retrouvé mort après avoir consommé du fentanyl et de la cocaïne. Mmh. Il s'agit de Jimmy Hayes. Il est décédé, ça fait quelques semaines, le 23 août, à son domicile. Puis on a su que très récemment, là, qu'il avait consommé de la cocaïne et du fentanyl. En tout cas, ça a été trouvé dans son sang après l'autopsie. Et puis, c'est un athlète de 31 ans. C'est le père toute jeune famille. Et l'article qu'on nous raconte aujourd'hui dans le Journal de Montréal, ce sont ces événements-là, mais vus à travers les yeux de Christian Hayes, qui est la femme de Jimmy Hayes. Et vendredi, elle est en route pour le New Jersey pour assister à une cérémonie en l'honneur de son mari avant le match qui opposait les Devils du New Jersey aux Blackhawks de Chicago. Et elle a reçu la nouvelle en disant, tu vois, ton mari avait probablement de graves problèmes de dépendance. Puis on interview dans cet article-là le père aussi. Le père avait vu, il avait des signes, étant toxicomane lui-même, il avait vu, il est sobre, mais toxicomane, le père de Jimmy Hayes, il avait vu des signes chez son fils après une blessure qui difficilement l'empêchait de vivre sa vie normale. Il avait commencé à prendre des antidouleurs, puis il avait avoué.
Écoute, c'est la crise des opioïdes. D'ailleurs, il y a un film qui va se tourner bientôt avec Michael Keaton dans le rôle principal là-dessus. Et écoute, si je peux te dire une petite anecdote personnelle, de ma vie personnelle, Sophie, ma blonde, s'est fait opérer récemment, vésicule biliaire, puis lui ont donné, bien sûr, des petits comprimés de morphine, là, si elle avait des douleurs qui l'empêchaient de dormir. Et elle a pris un comprimé de morphine, est allée reporter les autres qu'elle avait, est allée reporter les autres à la pharmacie parce qu'elle dit c'est elle avait trop peur. Tu te sens tellement bien, là. Elle se sentait tellement bien là-dessus, là. Elle a dit, oh non, moi là, j'aime mieux ressentir ma douleur qu'être accro à ça. Elle est retournée à la pharmacie porter ça. Donc, il y a un réel danger, hein, de devenir dépendant des opioïdes.
Moi aussi, ça m'est arrivé, une affaire semblable. Avec des parce qu'à un moment donné, comme plusieurs, hein, d'entre nous, même la majorité d'entre nous, là, j'avais un problème d'insomnie, puis je me suis dit, puis là, on n'est même pas rendu à la morphine, là, on est rendu là à un somnifère, là, je m'en étais fait prescrire. Puis
c'est facile de devenir dépendant puis accro, là.
Non, c'est trop facile. Puis d'ailleurs, sur notre joueur de hockey, Jimmy Hayes, le père de Jimmy Hayes, dit que cette merde-là, en parlant des médicaments, est trop puissante pour plusieurs personnes pour qu'on puisse s'en sortir favorablement. Alors, c'est bien triste.
Il faut faire très attention. Et tu veux revenir rapidement sur le grand patron du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi. Écoute, c'est un réseau pour aider les jeunes à se trouver une job, les accompagner. Lui, il a détourné pour près d'$1 million.
Ouais, du moins selon les prétentions de la requête introductive d'instance qui a été déposée au palais de justice de Montréal en chambre civile pour récupérer l'argent. Écoute, c'est pas compliqué, là. L'ancien conseiller jeunesse là, de Jean Charest, qui est vraiment un apparatchik libéral là, depuis une vingtaine d'années ou presque, là, était à la tête de ce réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. C'est un organisme communautaire, c'est un organisme sans but lucratif. Et on découvre trois axes dans ça. Il a été limogé, en fait, il a démissionné lui-même, mais la vérité, c'est que il a été limogé au début du mois de septembre. Puis on découvre qu'en un peu plus d'un an, il a chargé pour plus de 800 000 $ de frais de formation. Alors, bien sûr que on croit que tout ça, c'est du toc. Aussi, on trouve, selon les prétentions de la poursuite, un versement d'un peu plus de 7 000 $ à même les caisses de l'organisme dans ses propres REER. Moi, je te jure que si mon employeur me verse 17 000 $ comme ça, dans mes REER, ça se peut pas, hein, bien sûr. Puis là, en terminant, ce qui, ma foi, est peut-être le plus fâchant pour le regroupement des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est qu'il aurait créé une fausse fondation à l'insu des Carrefour Jeunesse Emploi en poussant l'audace jusqu'à inscrire le nom de deux de ses collègues des Carrefour Jeunesse Emploi comme administrateurs de cette fondation. Eux autres sont rendus compte quand ce scandale-là a éclaté. Il est administrateur d'une fondation qu'ils ne connaissaient même pas.
ils ont capoté ben raide quand ils ont su ça.
Exact. Et là, l'autre affaire, c'est que, selon les prétentions du requérant dans ça, Soulière, Alexandre Soulière, se serait créé aussi une compagnie à son nom, donc une Québec Inc., là, que je suis allé la vérifier au registre des entreprises, effectivement, une compagnie à son nom dont il est le seul administrateur pour faire circuler des contrats entre la fondation, lui, et le Carrefour Jeunesse Emploi pour une fondation qui, en principe, n'existe même pas. Alors, t'imagines la magnitude de cette présumée fraude-là, comme il est décrit par les requérants, puis on pense en trouver d'autres. En
fait. Ben oui, et je ne veux pas être cynique, Félix, mais il y a beaucoup de gens qui lisent ça puis qui doivent se dire combien d'autres dans les réseaux là, d'organismes de charité, d'organismes à but non lucratif, ça en met aussi plein les poches. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Mais en tout cas, lui, il pensait pouvoir s'en sortir et pas se faire pincer. C'est ça qui était assez étonnant. Tu sais, c'est $1 million à un moment donné qui disparaît d'un organisme sans but lucratif. Il me semble qu'il y a des gens qui allument.
C'est le dossier du réel, Richard, pour penser que... Tu veux dire, peux-tu vraiment penser que tu pompes près $1 million, en tout cas, selon les prétentions toujours de poursuite, puis que personne ne va s'en rendre compte. Il faut que tu aies un problème de dissociation avec le réel. Là.
Oui.
Ça ne peut pas marcher de même.
Ancien conseiller politique de Jean Charest. Hein?
Oui, exactement.
Alors, c'est toi qui signes d'ailleurs ce texte-là aujourd'hui avec la collaboration d'Andrea Valeria. Excellent job. Merci beaucoup. On se reparle demain, Félix. Salut.
Bye. Ouais.